Shalom tout le monde,
bienvenue des ténèbres,
bon retour à la lumière. Alors, je voudrais qu'on étudie un texte du traité de Sanhédrin, dans la page 94a, Tzadik Dalet Amoud Aleph. Ça parle d'une particularité, d'un mot dans un verset du prophète Yeshayahu, Isaïe en français. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Isaïe? Il nous parle de la guerre qui s'annonçait entre le roi Sanhérib et le roi Hizkia. Hizkia, en français, Ézéchias, était roi de Juda. La capitale de Juda, c'était Jérusalem. Et à l'époque du roi Hizkia, la Judée n'était pas vraiment indépendante, il était roi de Juda, mais il était tributaire, il faisait partie d'un empire, l'empire assyrien. Et donc, on peut dire que la Judée n'était pas vraiment indépendante, elle était sous mandat assyrien, et il y avait le roi Sanhérib. Le roi de Juda, donc Hizkia, décide un bon jour de cesser de payer le tribut, donc de devenir indépendant. Il veut passer d'une situation de dépendance à une situation d'indépendance politique. Le roi Sanhérib, qui ne l'entend pas de cette manière, part en guerre, arrive à défaire toutes les armées de Hizkia. Il s'empare des forteresses de tout le pays, et une fois qu'il a fini de faire la conquête de tout le pays, il fait le siège de Jérusalem. Alors, bien embêté, dans Jérusalem assiégé, il n'a plus de soldats pratiquement pour se défendre, arrive le roi Sanhérib avec une armée gigantesque. La Guémara nous donne un chiffre absolument incroyable, de 2,6 milliards de soldats. Bon, vous comprenez bien que c'est un chiffre absolument impossible, mais c'est une manière figurée de parler. Et il se passe un miracle. Il y a une épidémie qui se déclare dans l'armée de Sanhérib. La Bible appelle ça un ange de Dieu est envoyé pour frapper dans le camp de Sanhérib. Il perd en une nuit 185 000 soldats. Il quitte la Judée. Il se fait assassiner par ses fils dans son palais, et le pays de Yehuda retrouve son indépendance. N'est-ce pas? Bon, c'est un truc absolument incroyable. Et le prophète Yeshayahu parle de ça. Il parle dans ses prophéties de ce qui va se passer. Il parle de Hizkiyahu pratiquement comme le Mashiach. Il dit de lui, c'est dans le chapitre 9, Les marbés à Misra, ou le shalom en ketz, pour celui qui est abondant en pouvoir, qui amène une paix infinie, al kisse David al mamlarto, sur le trône de David et son empire, etc., etc. Alors, celui qui abonde de pouvoir, en hébreu, les marbés à Misra, celui qui abonde en pouvoir. N'est-ce pas? Le mot marbé, les marbés, s'écrit Lamed Mem Resh Bet He, n'est-ce pas? Les marbé, en hébreu, c'est Lamed Mem Resh Bet He. Vous savez que la lettre Mem, en hébreu, a deux formes. Il y a le Mem ouvert et il y a le Mem fermé. À la fin d'un mot, le Mem est fermé, c'est ce qu'on appelle le Mem final, et au milieu d'un mot, le Mem est ouvert. Et là, nous avons une seule exception pour tout le Tanakh. Dans le mot les marbé, vous avez un Mem final au milieu du mot. C'est écrit Lamed Mem, mais c'est un Mem final, au milieu du mot, Resh Bethel. Alors la Guémara se demande, mais pourquoi est-ce que ce Mem est fermé, mon flanc? N'est-ce pas? Le Mem aurait dû être ouvert, il est fermé. C'est quoi un Mem? Un Mem, c'est une initiale. C'est l'initiale de quel mot? Il y a beaucoup de mots qui commencent par Mem. Il y a un mot particulièrement aimable, Mashiach. N'est-ce pas? Et c'est comme si le prophète avait voulu dire de Hizkiyahu, la Mashiach. Et puis quelque chose l'a coincé, il n'a pas pu dire le mot, et alors il a dit autre chose. La marbé, amisra, etc. D'accord ? C'est comme ça que la Guémara comprend. C'est-à-dire que Hizkia est un Mashiach raté. Et non, c'est pas n'importe qui ce Hizkia. Ce Hizkia est un grand type de son temps, nous dit la Guémara dans le traité de Pessahim. Tout le monde étudiait la Torah, même les enfants connaissaient les halachot, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce Hizkia, qui a eu un si grand miracle, qui est arrivé à l'indépendance politique, n'a pas été le Mashiach ? Voilà, c'est la question qui préoccupe la Guémara. Et là, je vous lis le texte. Les marbeh à Misra ou le shalom en ketz, pour celui qui abonde en pouvoir et qui amène une paix éternelle. Amar Rabbi Tanhum, Rabbi Tanhum disait, Darash bar kapara bitzipori. Bar kapara a enseigné à Tzipori. Qui est bar kapara? Qui c'est bar kapara? Ben, c'est un des grands rachamim de la Mishnah, c'est le gendre de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, vous connaissez? Qui c'est? L'auteur de la Mishnah, n'est-ce pas? Bon. À Tzipori, Tzipori c'est où? C'est en Galilée. Il y a des ruines extraordinaires, vous devriez voir ça. Mipnema, kol mem chez Bemsa Teva Patuar. Pourquoi est-ce que le même qui est au milieu d'un mot est toujours ouvert? Veze Satoum, et celui-là est fermé. Il s'est passé quelque chose. Bikesh Akadosh Baruchu, la asot Hizkia ou Mashiach, Vesan Heriv Gog ou Magog. C'est parce que le Saint béni soit-il voulait que Hizkia ou devienne le Messie et que Sanhérive, le roi d'Assyrie, soit considéré comme la guerre de Gog et Magog, qui est la grande guerre finale contre le Mashiach à la fin des temps. Amra Midatadin, alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la rigueur s'est présentée devant Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Amra Midatadin, l'ifna Kadosh Baruchu. La rigueur s'est présentée devant Dieu pour dire Ribono Shel Olam, maître du monde, Ouma David Melech Israël, comment se fait-il que David, le roi d'Israël, Sheamar Kamashirod et Ishbachot Lefanecha, qui a dit tant de louanges. Qu'est-ce qui se passe? Qui a dit tant de louanges devant toi? C'est-à-dire, vous savez que le roi David a dit le livre de Tehilim, le livre des psaumes. Lo asito Mashiach, tu n'en as pas fait le Mashiach. Hizkia, Shasitalo Kolanissim Alalo Velo Amarshira, Lefanecha Ataaseu Mashiach. Hizkia, pour qui tu as fait tant de miracles, et qui n'a pas dit un seul cantique devant toi, tu vas en faire le Messie. Lechach Nistatem, c'est pour ça que le même s'est fermé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on reproche à Hizkia? C'est d'avoir refusé de dire une louange à Akadosh Baruch Hu, de réciter le Hallel, lorsqu'il a accédé à l'indépendance politique. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas devenu le Mashiach. Ça a l'air un peu énorme. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, pourquoi est-ce qu'il aurait dû dire une louange? Est-ce que c'est une halakha? Et si c'est vraiment une halakha, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? Et pourquoi c'est si grave que ça? Parce que vous savez, des péchés, il y a des péchés plus pires que ceux-là. Hein, j'en connais des pires que de ne pas dire le Hallel. Et pourtant, on dit, s'il avait dit le Hallel, eh bien, il aurait été le Mashiach. Il n'a pas dit le Hallel pour l'indépendance, il n'est pas le Mashiach. Un peu énorme. D'où est-ce que la Gemara va chercher tout ça? Tout d'abord, la source, c'est dans le traité de Pessahim, n'est-ce pas? Dans le traité de Pessahim, à la page Kuf Yud Zayin, Amoud Aleph, c'est-à-dire 117a. Vous voyez, je suis précis dans les sources. Il y a une question qui est posée à propos du Hallel. Pourquoi est-ce qu'on récite le Hallel? Bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on récite le Hallel? C'est dans Pessahim, Kuf Yud Zayin, Amoud Aleph. Hallel Zemi Amaro. Qui a dit le Hallel? Nevi'im Shebenehem, les prophètes qui étaient parmi eux, Tiknou Lahem les Israël, ont institué pour Israël, c'est donc une institution des prophètes, c'est beaucoup plus que les Chachamim, c'est les prophètes qui ont institué ça, par la suite on verra quel prophète c'était. Sheyeo Omrimoto, les prophètes ont institué de le dire. Al Kol Perek ou Ferek, Ve'al kol tzara ve'tzara shelo tavo aleihem, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important ou un malheur, ve'lichshenig alim, et lorsqu'ils en sont libérés, omrim oto, on doit le réciter, al geulatan, pour leur délivrance. Donc il y a une institution des prophètes qui est de réciter le Hallel à chaque fois que nous sommes libérés. Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit, c'est quoi? Kegon Hanouka, comme par exemple Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On a été libéré de la domination des Grecs, et c'est la raison pour laquelle il faut dire le Hallel à Hanouka. Donc à chaque fois qu'il y a une libération d'une domination étrangère, il faut dire le Hallel, et nous avons en fait trois cas de ce genre dans l'histoire. Le premier cas, c'était lors de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on récite le Hallel lors des fêtes qui sont toutes en souvenir de la sortie d'Égypte. Et puis nous avons le Hallel de Hanouka, lorsque nous avons été libérés des Grecs. Il y a également le Hallel que Chizkiyahou aurait dû réciter, mais qu'il n'a pas récité. Et puis il y a le Hallel, que nous avons été libérés de la domination du mandat britannique, c'est celui de Yom HaTzimut, n'est-ce pas? Donc nous avons trois cas dans l'histoire de récitation du Hallel quand il y a libération. Et donc, le fait de réciter le Hallel à Yom HaTzimut revient donc à une institution des prophètes. Et la question qui se pose, donc, puisqu'il y avait un devoir pour Hizkiyahou de réciter le Hallel, pourquoi est-ce qu'il a refusé de le faire? Il devait avoir des raisons quand même. D'accord? Mais parce qu'il a refusé de le faire, il n'est pas le Mashiach. C'est un peu énorme. Comment? Tout ça pour une question de rituel? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne récite pas le Hallel après la Shoah? Nous avons été libérés par les Américains, donc pourquoi ne pas réciter le Hallel? C'est ça ta question? C'est quand même une libération. C'est ça ta question? C'est ça ta question? Parce que je peux la répéter 5 fois, 6 fois. J'aimerais savoir quelle est ta question. D'accord, c'est ça ta question. Ah! Très bien! Très bonne question. Cette question est posée par la Guémara dans le traité de Megillah. Oui. Pour question parallèle, similaire, c'est pourquoi est-ce qu'on ne récite pas le Hallel à Pourim? Puisque nous avons été libérés de la solution finale. J'en suis à expliquer sa question. La Guémara dans le traité de Megillah demande pourquoi est-ce qu'on ne récite pas le Hallel à Pourim, puisque nous avons été libérés de la Shoah. Et c'est une Shoah dans laquelle il n'y a pas eu de victime. C'est encore plus fort que ta question à toi. D'accord? C'est-à-dire, dans la Shoah, il y a eu quand même 6 millions de morts. Mais on a été quand même finalement sauvés. Lors de l'histoire de Pourim, il y avait une intention de faire une solution finale, puisque Haman voulait tuer tous les Juifs. Et finalement, ça n'a pas marché. Donc on devrait dire le Hallel. C'est ta question à toi, donc, qui est posée par la Guémara. Elle répond, oui, mais après cela, nous sommes restés sous la domination politique de Ahasvéros. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas arrivé à l'indépendance politique, on ne peut pas réciter le Hallel. C'est ce que dit la Guémara. D'accord? Donc la question est très claire, et la réponse aussi. Donc ça ne fait que renforcer ce que je dis. Quand on arrive à l'indépendance politique, il faut réciter donc le Hallel. Oui?
Si on avait écrit une indépendance politique, mais au fond de l'Afrique, est-ce qu'on aurait fait le Hallel?
Si on avait eu une indépendance politique en pleine jungle africaine, hein, d'accord? Par exemple, imagine qu'il y avait eu une invasion de lions, et que dans la jungle, terrible jungle, le lion était mort ce soir, et donc on aurait accédé à l'indépendance politique dans un pays africain, est-ce qu'on devrait faire le Hallel? C'est ça ta question? Il y a à ce propos une controverse à nouveau dans la même page du traité de Megillah, page 14a, à propos de savoir, pour l'histoire de Pourim, parce qu'il y a là-bas deux réponses qui sont données, il y en a trois en vérité. L'un qui dit que parce que nous n'avons pas accédé à l'indépendance politique, et l'autre dit parce que ce n'était pas en Eretz Israël. Donc, d'après la première réponse, on devrait dire le Hallel dans le cas d'un État indépendant en Afrique noire. Et dans la deuxième réponse, qui dit que c'est pas en Eretz Israël, on ne peut pas. D'accord? Mais enfin, de toute façon, de notre cas, puisque c'est à la fois indépendance politique et que c'est en Eretz Israël, donc la question ne se pose pas, le Hallel va de soi. D'accord? Donc, il y a une takana des Nevi'im, des prophètes, de dire, oui. Quand on a été libéré de la domination perse, nous avons fait le Hallel. C'est quand est-ce que nous avons été libérés de la domination perse? À Hanouka. C'est-à-dire que Hanouka, je ne dis pas que les Perses ils nous ont gardés sous leur domination jusqu'à l'invasion grecque, et que c'est que après l'histoire de Hanouka que nous avons été libérés. Donc on dit le Hallel pour la libération de l'époque du deuxième temple, c'est la fête de Hanouka, effectivement. Donc tu as tout à fait raison. Et donc, je reviens à ce que je disais. Donc, la question se pose à nouveau, pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que Chizkiyahou n'a pas voulu le faire? Je voudrais aller plus loin encore dans ma question. Dans Maaseret Psachim, dans la page que je vous ai lue tout à l'heure, la Gemara dit que Chizkiyahou a récité le Hallel. Contrairement à ce que nous voyons dans Sanhedrin, où on nous dit qu'il n'a pas dit le Hallel, dans Psachim, il est écrit qu'il l'a dit. Qu'il a dit sans bracha. Dans Psachim, il a dit qu'il est dit, qu'il l'a dit. Dans Sanhedrin, il a écrit qu'il ne l'a pas dit. Alors, on peut dire, ce qui est facile de dire, c'est qu'il y a une controverse entre les deux passages de la Gemara, ce qu'on appelle Mahloket Sugiyot. Mais on peut rentrer plus dans le détail. Dans le traité de Psachim, il a écrit qu'il a dit le Hallel, tandis que dans Sanhedrin, il dit qu'il n'a pas dit la Shira. Maintenant, Shira et Hallel sont synonymes dans la Gemara. Hallel, Shira, on voit dans les textes de la Gemara que c'est exactement la même chose. Mais il y a quand même deux appellations différentes. Parce qu'il a probablement dit le Hallel, parce qu'il devait le dire, puisque c'est une takana des prophètes. Il ne pouvait pas ne pas le faire. Mais il ne l'a pas fait de tout cœur. Ça ne venait pas de ses tripes. C'est-à-dire, il ne s'identifiait pas à cette récitation du Hallel, et c'est pour ça qu'il n'a pas été le Mashiach. Il faut aller plus loin. Il faut donc vraiment comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il n'a pas voulu dire le Hallel. De plus, j'aimerais, petite parenthèse, savoir qui sont les prophètes qui ont institué de dire le Hallel à Pessah, Hanouka et Yom Ha'atzmaut. Qui sont ces prophètes-là? C'est pas écrit dans la Gemara, mais je vais vous dire qui c'est qui l'a dit. C'est écrit dans Shemot Rabba, dans le Midrash. Il est écrit à propos de la sortie d'Égypte. Il y a le verset au début de la Shira, « Az yashir Moshe ouvne Israël et Tashira azot l'Hashem » C'est alors que Moshe et les enfants d'Israël ont récité ce cantique pour Dieu. « Vayomru les morts » Ça veut dire quoi, Vayomru les morts? Ils ont dit de dire. Ah, bonjour. Oui, c'est utile, ça peut servir à quelque chose. Là. Ah ben. Ils ont dit de dire. C'est de quoi ils ont dit de dire? Vayomru les morts, c'est ça? Ils ont dit de dire. Alors, le Midrash explique, ça veut dire qu'ils ont institué de dire le Hallel dans les prochaines libérations. Amru, Nomar, Levanenu, Shiomru, Livnehem, ils ont dit, nous dirons à nos enfants de dire à leurs enfants de réciter un cantique semblable à celui-là lorsque Dieu leur fera des miracles. Et donc, qui étaient les prophètes au moment de la sortie d'Égypte? Moshe, Aaron et Myriam. Donc, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué de dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut. C'est une takana midera banan faite par le plus grand des prophètes. C'est pas n'importe quel prophète. D'accord? D'ailleurs, on peut, si on voit dans le texte, dans la Gemara, dans Psachim, on voit que c'est dit en allusion, que c'est des Moshe. En tout cas, donc, on revient donc à la question de Chizkiyahou. Mais tout d'abord, je voudrais comprendre, avant de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu dire le Hallel, pourquoi est-ce que la Gemara donne une tellement grande importance à ce Hallel? Après tout, le Hallel, c'est une partie du rituel. On pourrait dire, ben, il n'a pas fait le Birkat Hamazon. Bon, d'accord, c'est pas bien de faire le Birkat Hamazon, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que le Birkat Hamazon dans la vie. Comme par exemple, parfois on vous dit, oui, Eretz Israël c'est important, mais il y a encore d'autres mitzvot. C'est comme si quelqu'un à qui je dirais le matin, mais enfin, pourquoi tu n'as pas mis les téfilines ce matin? C'est vrai que les téfilines c'est important, il me répondrait, mais il y a aussi d'autres mitzvot dans la Torah. Donc, et alors? C'est vrai qu'il y a d'autres mitzvot, et alors? Et alors les téfilines, tu peux pas la faire? Non. Donc j'aimerais comprendre ce qui s'est passé là. C'est quoi dire le Hallel? C'est une reconnaissance. Ça, c'est un acte de reconnaissance. Maintenant, j'aimerais comprendre d'où viennent tous les problèmes que nous avons. Tous les problèmes. Mais alors tous, d'où ça vient? Comment ça a commencé? Quand est-ce qu'il y a eu des problèmes? Depuis quand il y a des problèmes? Avant quoi?
Avant les Juifs,
avant tout. Avant quoi les... Mais quand est-ce que ça a commencé? Par Adam Harishon, n'est-ce pas? Adam Harishon est le premier à avoir fait des problèmes. Et depuis qu'il a fait des problèmes, bien tout le temps il y a des problèmes. D'accord? Maintenant, quel était le péché du premier homme? Il a mangé quoi? Le fruit de la connaissance. D'accord? Te fiche pas de ma pomme. Et donc, en tout cas, il a mangé le fruit de la connaissance, c'était très grave. C'était son premier péché. C'était quoi son deuxième? C'était quoi le deuxième péché? Non. Quand Dieu lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. N'est-ce pas? Et Rachid dit, c'était le péché d'ingratitude. Petite question, quel est le plus grave péché d'un homme? Le premier ou le deuxième? Le deuxième, parce que dans le premier, on est toujours un peu innocent. Donc, en fait, le péché par excellence d'Adam Harishon, c'est l'ingratitude. Et depuis cette ingratitude, tout va mal. Donc, c'est quoi la réparation de la faute du premier homme? La gratitude. Voilà. Ça, c'est donc un point très important. Donc, étant donné que le Mashiach, il a pour rôle de régler tous les problèmes, donc l'épreuve du Mashiach, c'est la gratitude. Donc, le Hallel. Maintenant, pourquoi c'est justement la gratitude et pas autre chose? Je veux dire une chose très simple. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire à ma place, c'est de le remercier. Donc, en quoi s'exprime le fait que je suis une créature? Dans ma capacité, c'est-à-dire être une créature, ça veut dire être extérieur à Akadosh Baruch Hu. Et donc, entretenir avec lui un dialogue. La seule chose qui, par excellence, dans l'absolu, me présente comme étant un dialogueur avec l'Éternel, c'est ma capacité de remercier. Donc, c'est ça l'épreuve de la réussite de la création. Si tu es capable de remercier, donc la création est réussie. Tu es en situation d'ingratitude, la création tout entière est un échec. Donc, vous voyez pourquoi c'est devenu tellement important pour Hizkiyahou. Maintenant, quand est-ce que c'est une épreuve de remercier? Imaginez que Akadosh Baruch Hu vous fasse, par exemple, voilà, vous avez très très faim, vous avez depuis, ça fait déjà au moins une demi-heure que vous n'avez pas mangé. Et puis, alors, si je pouvais avoir, alors, quelque chose, je sais pas, vous êtes en plein désert. Hein. Quelque chose, Keila avec de l'orgeat, voilà. Keila et orgeat, si je pouvais avoir ça. Et puis, tlac, du ciel, descend un plateau. Voilà, orja, ça. Et puis, si vous voulez, il y a des variantes pour ajouter. Ça, c'est très bien. Qui est là, ça. Et ça vient directement du ciel. Tilt. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous remerciez. Ça va de soi. N'est-ce pas? C'est évident. Donc, ce n'est pas une épreuve. Quand est-ce qu'il y a épreuve de gratitude ou d'ingratitude? C'est quand on pourrait penser que ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Quand on se dit, ah, c'est une voie naturelle. C'est quelque chose qui se passe de toute manière. D'accord? Je suis passé à côté d'un fleuve de Pkeila, donc c'est normal qu'il y en avait. D'accord? D'accord? Alors, c'est là qu'il y a l'épreuve de la gratitude. Alors, par exemple, il y a... Tout le monde à savoir, c'est quand Akadosh Baruch Hu fait tout, le Hallel va de soi. C'est quand on a l'impression qu'il n'a pas fait que le Hallel est une épreuve. Oui. Très bonne question. La Guémara dit qu'il ne faut pas faire dire le Hallel tous les jours. Mais il y a quelque chose d'important. Vous savez, il y a dans la sainteté différents degrés. Dans la sainteté du temps, le Shabbat, et puis il y a les fêtes. Et puis il y a des tas de demi-fêtes, quart de fête, dixième de fête. Et les règles sont différentes. Par exemple, le Shabbat vient pour commémorer quoi? La création du monde. Très bien. Qui c'est qui a créé le monde? Dieu. Est-ce que quelqu'un l'a aidé? Pas de Shalom, personne l'a aidé. Il a fait tout seul. Donc, quand je fais le Shabbat, en fait, je déclare que moi, je n'ai pas participé. Et donc, pour s'imprégner de la sainteté du Shabbat, ce que je dois faire, c'est je dois ne rien faire. Donc le Shabbat, il m'est interdit de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas le droit. Pas le droit de faire quoi que ce soit. Parce que le Shabbat, le seul qui a agi, c'est Dieu. Donc si tu veux être entré en contact avec cette sainteté, tu dois t'écraser. Tu dois cesser totalement ton activité humaine. Maintenant, les fêtes, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, ça vient commémorer quoi? Ben, vous ne dites pas dans les prières, Zecher, les Siat Mitzrayim, c'est un souvenir de la sortie d'Égypte. Petite question, qui c'est qui a fait la sortie d'Égypte? Tout seul? Il y a eu une participation. Vous savez qui c'est qui a participé? Les Hébreux. Ils ont marché. Pharaon leur a dit, vous pouvez partir, ils sont partis. Imaginez que Pharaon ait dit, ça y est, vous pouvez partir, et les Juifs diraient, non, on reste. Il n'y aurait pas eu les fêtes. Donc, il y a une participation de quelques pourcentages, d'un petit pourcentage, de la part de la créature. Oui?
Mais on dit quand la chair va venir, on va venir sur des oiseaux. C'est-à-dire que Dieu aussi va nous faire revenir.
Je ne sais pas de ça dont je parle maintenant. Donc, en sortant d'Égypte, il y a une participation de l'homme. Résultat, la sainteté des jours de Yom Tov fait participer l'homme. J'ai le droit de cuisiner à Yom Tov. Parce que j'ai participé à l'élaboration de la sainteté. Mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, de construire une maison à Yom Tov? Interdit. C'est-à-dire, 90% reste interdit, 10% ça m'appartient. J'ai le droit de faire la cuisine. Parce que je suis auteur à part entière à l'élaboration de cette sainteté, à cause de l'événement historique. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un moment dans l'histoire où il y a eu à nouveau une fête. Quelle est la fête qui apparaît dans l'histoire après la Torah? Pourim. Pourim, qui c'est qui a fait le travail? À 90%, c'était les hommes, mais en coulisses, c'était Akadosh Baruch Hu. Résultat, quels travaux sont interdits à Pourim? Si, on n'a pas le minhag de ne pas faire, de ne pas planter des arbres et de ne pas construire des maisons à Pourim. Pour une raison très simple, c'est que ça s'est passé en Houtz Laharetz. Or, planter des arbres et construire des maisons, ça a un sens en Eretz Israël, pas en Houtz Laharetz. Et donc, étant donné que ça a été fait officiellement par des hommes et par derrière par Akadosh Baruch Hu, 90% des travaux sont interdits, sont autorisés, et une petite fraction est interdite. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre fête après Pourim dans l'histoire. Hanouka. Qui c'est qui a fait le travail? Les hommes, ils ont fait la guerre. Mais il y a eu encore un miracle à Hanouka, à part la guerre. Il y a la fiole. Tout à l'heure, tu te fichais de ma pomme, maintenant tu peux te ficher de ma fiole. N'est-ce pas? Donc, pour cette raison-là, on a deux choses à Hanouka, pardon. On a le Hallel et on a l'allumage des bougies. Le Hallel à cause de la victoire et l'allumage des bougies à cause de la fiole. Et il y a quelque chose d'intéressant. À Hanouka, on a le droit de tout faire, puisque c'est nous qui avons fait la guerre. Mais la fiole, c'est une intervention divine, directe. Alors le minhag, c'est que les femmes qui ne font pas la guerre ne font pas de travaux pendant la demi-heure où les lumières brûlent. D'accord? Donc il est resté quelque chose. Ayom Ha'atzmaout, qui c'est qui a fait le travail? C'est entièrement les hommes et entièrement Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on pourrait penser qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien fait. Et c'est là donc que vient l'épreuve du Hallel. Ben oui, c'est-à-dire, les lois de la nature n'ont pas changé lors de la guerre d'indépendance. Donc vous pourrez se dire, ah, c'est entièrement naturel, la Kadosh Baruch Hu n'intervient pas là-dedans. Alors qu'en fait, au contraire, c'est l'indépendance de la sainteté. La sainteté est devenue tellement indépendante qu'elle s'identifie aux hommes. Et donc, on peut faire tous les travaux à Yom Ha'atzmaout. Aucun travail n'est interdit. Oui?
Alors tous les soldats qui ont fait des miracles, ils ont vécu tout ça.
Oui, ce sont des choses extraordinaires, mais ce n'est pas une transformation des règles de la nature. Alors maintenant, une chose très intéressante. Si c'est vrai ce que je dis, ça veut dire qu'il y aurait une manière d'avoir un manque de Emouna. Il y a deux discours hérétiques par rapport à Yom Ha'atzmaout. Un discours hérétique laïque, chilonite, et un discours hérétique religieux. Le discours hérétique laïque consiste à dire la chose suivante. Le discours hérétique laïque dit « Camarade, tu vas quand même pas me dire que ce serait Dieu qui aurait fondé l'État d'Israël, alors que tout le monde sait très bien que c'est le Palmar. » N'est-ce pas? Et maintenant, nous passons tous nous portons aux voix la dernière décision du comité central du kibboutz. Et donc, vous vous rappelez bien, ce n'est pas Dieu qui a fondé l'État d'Israël, ce sont nos forces. Jusque-là, discours hérétique, n'est-ce pas? Il y a un discours religieux qui commence à dire, tu vas quand même pas me dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fondé l'État d'Israël alors que tout le monde sait très bien que c'est le Palmar. C'est la même hérésie avec un autre accent. Vous avez compris? C'est l'épreuve de Yom HaAtzmaut, c'est d'être capable de reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui agit à travers l'histoire. Et donc, on peut dire que, vous comprenez à quel point c'est important. On peut dire que la réussite de l'histoire, l'aboutissement du calendrier hébraïque, ça se passe justement dans ce moment-là. Alors maintenant, revenons à notre histoire de Chizkia. Pourquoi est-ce que Chizkia ne voulait pas dire le Hallel, bon flanc, alors qu'il a écouté mon cours, je suppose. Il était plus grand que moi. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit le Hallel? D'ailleurs, continuons un peu le texte de la Guémara. Miyad patra haaretz ve'amra lefanav. Alors quand Akadosh Baruch Hu a refusé de faire de Chizkia le Mashiach, la terre s'est levée et a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, ani omeret lefanecha shira tachat tzadikze ve'asiu Mashiach. Moi je dirai le Hallel devant toi à la place de ce tzadik et faisant le Mashiach. C'est-à-dire la terre s'est proposée. Maintenant je vais vous dire, vous avez entendu la terre réciter un cantique? Ceux qui me disent oui, j'ai où les mettre? Oui. Est-ce que tu as entendu déjà la terre chanter? Heureusement. Parce que sinon, je t'aurais hospitalisé. Et pourtant, la Guémara nous dit ici que la terre a voulu faire le Hallel à la place de Chizkia. C'est quoi la terre? Le peuple, le Hamaaretz, les gens tout simples, eux, ils avaient ce sentiment tout net. C'est vrai, il faut dire le Hallel. Et ça ne peut pas venir à la place du dirigeant. Le dirigeant ne comprend pas. Mais la terre, elle peut faire ça à la place. Patra ve'amra shira lefanav. Et elle a récité un cantique devant lui. Chez Némar, ainsi qu'il est dit, Miknaf ha'aretz zemirot shamanu tzvilat tzadik. Nous avons entendu des extrémités de la terre un cantique à la place du tzadik. Amar sara olam. Et alors, le prince du monde, c'est quoi le prince du monde? Le plus grand, non, le prince du monde, c'est le plus grand des anges. L'ange qui domine le monde. Les fanav, qui est dit devant Dieu, Ribonou Shalom, maître du monde, Sylvionou Hassel et Tzadik Zé, fais la volonté de ce Tzadik. C'est-à-dire, même les anges étaient d'accord que Chizkiaou, même s'il n'est pas capable de dire le Hallel, comment? Oui, c'est ça. Même s'il n'est pas capable de dire le Hallel, mais étant donné que le peuple a dit à sa place, ça suffit. Yatsabat Kol Ve'amra, une voix s'est fait entendre, disant, Razili, Razili, c'est mon secret, c'est mon secret. Amar Anavi, et alors le prophète a dit, Oili, Oili, malheur à moi, malheur à moi. Admatai, jusqu'à quand? Yatsa bat kol ve'amra, et une voix s'est fait entendre en disant, Bogdim bagdou, beged bogdim bagdou. Les traîtres ont trahi, et c'est une trahison de traîtres qu'ils ont trahi. Ça veut dire quoi? Amar Rava, veitema Rabbi Yitzhak, Rava disait, et certains disent que Rabbi Yitzhak le disait, Adeatu bazouze ou bazouze des bazouze, jusqu'à ce que viennent les déprédateurs et les déprédateurs de déprédateurs. C'est-à-dire que c'est repoussé jusqu'à un moment dans l'histoire où même si le tzadik ne voudra pas dire le Hallel, le fait que le peuple le dise suffira. Mais ça a été repoussé pour très longtemps. D'accord? Donc, Baruch Hashem, nous sommes à ce moment de l'histoire crucial où notre épreuve, c'est de dire le Hallel. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que Chizkiaou n'a pas voulu dire le Hallel. J'ai trois raisons différentes. Une raison religieuse, une raison de droite, et une raison de gauche. D'accord? Vous savez qu'il y a trois courants essentiels dans la société d'Israël. Les religieux, la droite et la gauche. Alors, je vais vous donner des raisons religieuses, pourquoi ne pas dire le Hallel, raisons de droite et des raisons de gauche. La raison religieuse, la Guémara nous dit que Chizkiaou était un homme très religieux. Et donc, ce qui était important pour lui, c'était l'étude de la Torah. Donc, le fait qu'on soit indépendant politiquement, de son point de vue, ce n'est pas tellement important. L'essentiel, c'est qu'il y ait assez de fonds qui soient versés dans le Talmud Torah. Ça, c'est plus important. Et donc, le fait qu'il y ait un événement politique, pour lui, ce n'est pas significatif. Et alors, on est indépendant. Ben, la France aussi est indépendante, on s'en fiche pas mal. D'accord? Ah bon, c'est tout. Pour toi, l'indépendance d'Israël et l'indépendance de la France, c'est la même chose. 14 juillet, tu t'en fiches pas mal. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. D'accord ? Et donc, ça peut être l'opinion. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, ça veut dire que le tort de Hizkia, c'est d'avoir été exclusivement religieux et pas national. Il s'en fiche pas mal de savoir qu'il y a l'indépendance politique. Pour lui, c'est pas insignifiant. C'est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, qui est tout son monde. Ah, si c'est comme ça, tu ne peux pas être le Mashiach. Le Mashiach, c'est un roi. Ça, c'est la première raison. Oui ? Pourquoi ? Ah, parce qu'il voulait que l'argent qu'il payait au roi d'Assyrie soit versé dans les yeshivot. C'est plus important. La deuxième raison, peut-être une raison tout à fait nationale, qui est, c'est que du temps de Hizkiyahu, il y a eu un grand malheur. C'est que les 10 tribus du Nord ont été exilées. C'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume du Nord, de Samarie, a été détruit de son temps par les Assyriens. Et Hizkiyahu disait, pour des raisons nationales, il disait, à une époque où des Juifs ont été chassés de leur maison, je suis incapable de réciter le Hallel. Vous avez ce genre de réaction. Des gens vous disent, ah, on chasse des Juifs de leur pays, je ne peux pas dire le Hallel. Ah bon ? C'est-à-dire que tu es incapable de reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais vous citer à ce propos, vous ramener à ce propos une histoire intéressante qu'on trouve dans le livre de Shoftim, le livre des juges. Vous connaissez le livre des juges ? Il y avait là-bas un des juges qui s'appelait Gideon, en français Gédéon. Vous connaissez ? Bon. Le fameux Gideon en question était un bon juif, quoi. Enfin, il n'était pas des juifs, puisqu'il n'était pas de la tribu de Juda, il était de la tribu de Ménaché. Et dans son village à lui, qui s'appelait Ophrah, tout le monde était idolâtre. C'est-à-dire, tout le monde révérait le Baal. Le culte d'Akadosh Baruch Hu était abandonné. Et puis, à l'époque, il y avait tout le temps des infiltrations des Midianites qui faisaient des raids sur le pays et s'emparaient des récoltes. Les Midianites. Donc ça allait très mal à l'époque. Et puis arrive un délégué d'Akadosh Baruch Hu, un ange, quelqu'un de Malach Hashem, et qui dit à Gideon, Hashem imcha gibor echa'il, Dieu est avec toi, héros de réussite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, l'ange lui dit, heureusement qu'il y a au moins un religieux dans le village, parce que tout le monde est idolâtre, au moins il y a un religieux, que Dieu soit avec toi. Réponse de Gideon, Biadoni Vieshachem Imanu, de grâce, maître, est-ce que Dieu est avec nous ? Vaïe nifleotav chassadav. Asher si pour la noix voté nous à l'aube mufti motzi à noix chez Mitzrayim. Où sont ces grâces et ces miracles que nos ancêtres nous ont racontés, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte? Ve'ata lama metzat nu kotzot. Et maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes dans tant de malheur? Vous avez remarqué que Gideon n'a pas un discours religieux disant oui, nous méritons tout ça parce que nous avons abandonné la religion. Au contraire, Gideon se révolte quand on lui dit ça va bien. Et alors le prophète ou l'ange lui dit, l'herbe chokharazé, veoshata d'Israël, sers-toi de cette force que tu as, cette force donc de défendre les juifs, pour sauver Israël. Et finalement, il sauve Israël. Alors, mais le problème est de savoir, d'où est-ce que Gideon sait que Dieu nous a fait sortir d'Égypte? Qui lui a raconté ça? Son père l'idolâtre. Il dit, et le Midrash dit, que Gideon a dit à l'ange, hier soir c'était Pessah. Et j'ai entendu mon père réciter le Hallel, et il disait Betzet Israël mi Mitzrayim, lorsque Israël sortait d'Égypte. C'est comme ça que Gideon sait qu'il y a eu la sortie d'Égypte, alors que tout son village est idolâtre. Vous voyez donc une société entièrement idolâtre, dans laquelle on continue à réciter le Hallel. Et c'est ça qui donne la force, donc dans une société dans laquelle il y a la reconnaissance de la présence de Dieu, des bienfaits de Dieu, et c'est ça qui permet de sauver Israël. Vous voyez à quel point c'est important que le Hallel soit récité même dans une société idolâtre. Revenons donc à notre... Donc c'était donc la deuxième raison. Hizkia probablement était affligé des souffrances d'Israël et il disait donc qu'on ne peut pas dire le Hallel. Et la Guémara dit qu'il a tort. Il y a une troisième raison. Comment s'est fait cette délivrance? Vous vous rappelez qu'il y a eu une épidémie et qu'il y a eu chez l'ennemi combien de morts? 185 000 morts. Alors vous voyez, Chizkiyahou, le roi de Juda, se levant le matin, pendant le siège de Jérusalem, inquiet de ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, il se dit, voilà, oh là, ils vont nous assaillir. Il ouvre la fenêtre et il voit 185 000 cadavres. Vient le prophète, il dit, alors, Chizkiyah, tu dis le Hallel? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il prend en pitié les créatures de Dieu qui sont mortes. Et il se dit donc, on ne peut pas réciter le Hallel quand il y a eu des morts chez l'ennemi. C'est-à-dire, il a une sensibilité. Il a raison. Akadosh Baruch Hu est sensible à ça, si on peut dire de certaine manière. Mais ce n'est pas le travail du Mashiach. Le Mashiach, il doit être fidèle à l'esprit national de son peuple. D'accord? Donc, toutes les raisons qu'on peut avoir de ne pas dire le Hallel, qui existent, sont considérées par la Gemara comme mauvaises. Oui?
Moi, pour les parties l'ennemi, parce que 187 000 morts, c'est rien, il parlait de 2 milliards et demi.
Oui, j'ai dit que le chiffre de 2 milliards et demi était exagéré. Non. Le chiffre de 185 000 est raisonnable, 2,6 milliards est irraisonnable. Bon, oui. Surtout, il y a une différence d'ailleurs, c'est que le chiffre de 185 000 est écrit dans la Bible, mais le chiffre de 2,6 milliards est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle a sa manière de s'exprimer. Bon, en tout cas, vous voyez de quoi il s'agit. Le Hallel, donc, est l'épreuve de la génération de la Géoula. Vous avez compris maintenant le principe? Maintenant, je ne vous parle pas encore du Hallel du soir, qui est comparé à celui de Pessah, et de la bénédiction qu'on fait chez Chiyanou, etc. Par exemple, moi je suis de ceux qui considèrent qu'il y a un devoir à Yom HaTzimut de dire le Hallel le soir, et donc j'organise une prière dans au Kotel, où viennent des milliers de personnes réciter ensemble le Hallel avec la bénédiction. D'accord? Maintenant, le Rav Partouche me dit tout à l'heure qu'étant donné que vous revenez de la Galoute, et que vous êtes imprégné de galoutisme, vous avez énormément de questions, genre, ah, alors les Gdolim ils savent pas ça, ou encore un truc comme ça. Oui? Allez-y. Alors, toutes les questions qui rentrent dans la même catégorie, les Gdolim, on va les mettre ensemble, d'accord? D'accord. Il y a encore une autre question? C'est ça la question? Il y a des Gdolim qui ont le droit de se tromper. C'est une évidence. Où est-ce que vous avez inventé cette halakha, comme quoi la halakha serait décidée en fonction de l'opinion d'un gadol? C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas la halakha comme le gdolador. C'est en supposant que quelqu'un est gadolador, peu importe quel est son nom, d'accord? Jamais on a vu dans la halakha que la halakha est comme le gdolador. Ça n'existe pas. Par exemple, du temps du Rambam, le plus grand d'Israël, c'était le Rambam. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, donc tout Israël faisait comme le Rambam? Maintenant, quatre générations plus tard, du temps du Rashba, le gdolador, c'est le Rashba. Ah, ça veut dire qu'à ce moment-là, tout Israël change la halakha et fait comme le Rashba? N'importe quoi. On n'a jamais vu une chose pareille, c'est une réforme de la halakha, ce que vous dites là. Oui, cette réforme est bien est répandue aujourd'hui dans le public dit Haredi, mais c'est à cause d'une pauvreté de Torah absolument incroyable. Quand on étudie la Torah, on sait très bien que la halakha se fait en fonction de la vérité, et pas en fonction du gadol. Il peut être qui il peut être, ça n'a aucune importance. La halakha se décide en fonction des textes, en fonction des arguments, on tranche, il y a différentes opinions, finalement on tranche, c'est tout. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger, par exemple, du poulet avec du lait? Oui. Rabbi Yossi Aglili dit qu'on a le droit. C'est un des grands maîtres de la Mishnah. Alors pourquoi est-ce qu'on peut interdire s'il lui dit que c'est autorisé? Parce que la halakha n'est pas comme lui. C'est tout. Il n'y a pas plus grand que Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus grand que Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, pour la fête de Sukkot, on doit prendre un loulav, un etrog, un hadas et une arava. D'accord? Si vous le faites et vous faites la bracha, c'est une bracha levatala. Pourtant, c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. Oui, mais la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Petite remarque, vous savez que sur les pièces qui ont été frappées par Bar Kokhba, qui était soutenu par Rabbi Akiva, il y a là-bas gravé les quatre espèces qu'on prend à Sukkot. Vous savez combien d'espèces il y a de chaque? Combien? Une espèce, comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva ne s'est pas seulement contenté d'enseigner ça, il s'est servi du pouvoir politique pour diffuser son opinion à l'Afrique. C'est-à-dire, il dit à Bar Kokhba, bon, tu es roi d'Israël, je te soutiens, soutiens-moi aussi. Et donc sur les pièces de Bar Korva, vous avez une Arava, un Hadas, un Lulav et un Etrog. Et ça n'a servi à rien. Ou peut-être le Gdol adore, la Halakha n'est pas décidée par toi. D'accord ? Oui ? Le grand rabbinat d'Israël. C'est le grand rabbinat d'Israël. C'est une institution du grand rabbinat d'Israël en tant que Beddin qui a décidé cela. D'ailleurs, le grand rabbinat d'Israël n'a fait que être fidèle à la Halakha, à Maseret Psachim, à l'institution des Nevi'im et à Maseret Sanhedrin, tout simplement. C'est-à-dire, si le grand rabbinat d'Israël n'avait pas institué le Hallel du Yom Ha'atzmaut, il aurait été coupable. D'accord ? Ça aurait été une transgression de son devoir. Donc il n'avait pas le choix, il était bien obligé de le faire. D'accord ? Maintenant, le fait que certains disent on ne peut pas, etc. Alors, il y a évidemment des gens qui vous diront non, l'État d'Israël c'est quelque chose de très important, mais ce que nous disons c'est simplement un problème de halakha netto. Vous connaissez ça ? La halakha netto, ça n'existe pas. Si la halakha est détachée des opinions, alors ça voudrait donc dire que la halakha, c'est quelque chose d'absolument superflu. Pourquoi ? Ça serait tellement important d'insister qu'il faut faire comme ça et pas comme ça, si ça n'a aucune conséquence au niveau des idées. D'accord ? Vous avez qu'à étudier les textes de ceux qui s'opposent au Hallel et Yom Ha'atzmaut, vous voyez très bien que c'est influencé par une considération des événements. Soit parce que on refuse de reconnaître une valeur à un État qui aurait été fondé par des gens non religieux ou qui avaient des intentions antireligieuses, soit parce que on considère que le fait même d'avoir un État est quelque chose de répréhensible, et donc dans ce cas-là, ils ne peuvent pas dire le Hallel. Mais étant donné que dans les deux cas, ils ont tort, la halakha reste qu'il faut faire le Hallel et Yom Ha'atzmaut. Quel est le problème ? Est-ce que tu fais la bracha sur le Hallel à Hanouka ou pas ? Oui, n'est-ce pas ? Est-ce que tu fais le Hallel avec bracha à Shavuot ? Oui, n'est-ce pas ? À chaque fois qu'il y a une mitzvah, midérabanan, on fait la bracha, ça va de soi. C'est pas un safek ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a un argument qui est amené par un des gdolim dont vous avez cité le nom tout à l'heure, qui est que oui, mais on ne dit le Hallel que si c'est un miracle qui concerne l'ensemble du peuple juif. Mais comme ça n'a concerné que les habitants de Eretz Israël à l'époque du mandat britannique, alors c'est un truc local. C'est donc une fête locale. Comme par exemple, il y a eu à Avignon, vous savez qu'il y a un Pourim d'Avignon ? Oui, parce qu'à Avignon, il y a eu un problème avec l'archevêque de l'époque, etc. La communauté a échappé à quelque chose de très grave. Alors, il y avait une fête qui se faisait chaque année à Avignon. Mais, et pour ça, on ne récite pas le Hallel, parce que ce n'est pas un miracle pour Klal Israël. Donc, étant donné que les habitants de la Palestine, à l'époque, ont été sauvés de quelque chose de très grave, donc il faut se réjouir, mais on ne peut pas faire le Hallel, puisque ce n'est pas pour tout Israël. Vous gobez ça, vous ? C'est-à-dire dire que la fondation de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui ne concerne pas l'ensemble du peuple d'Israël, c'est se moquer du monde. D'accord ? Le Hallel, ça n'existe pas un Hallel abrégé. Le Hallel abrégé qu'on récite à Rosh Chodesh ou dans les derniers jours de Pessah, c'est un minhag qui a été institué dans des jours où on ne devrait pas dire le Hallel. C'est-à-dire, la Mishnah dit en toutes lettres qu'on ne dit pas le Hallel Rosh Chodesh. Et pourtant, nous le disons. Alors la Gemara dit oui, mais c'est pas vraiment qu'on le dit puisque c'est abrégé. Ça n'a rien à voir donc avec le problème Sfaradim, pas Sfaradim, etc. N'importe quoi, le Hallel, c'est un Hallel complet, donc par conséquent avec Bracha. Étant donné que c'est également similaire à Pessah, puisque c'est la libération finale, donc évidemment ça se récite également la nuit, mais ça c'est pour le sujet d'un autre cours extrêmement long. Si vous voulez, j'ai écrit des choses là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce que le Hallel du soir est indispensable à Yom Ha'atzmaut, même si au Machon Mir mon opinion ne prévaut pas, mais grâce à ça j'ai pu instituer, donc j'ai été libre de faire mon Hallel, si vous voulez, au Kotel chaque année. Il y a plusieurs milliers de personnes, vous dont vous ferez partie, Bezrat Hashem, vous pouvez venir donc rester le Hallel Mincha à 7h moins le quart. Il y a des transports organisés en face du Merkaz Arav. D'accord ? Voilà. Le Tachanoun. Comment est-ce que tu veux faire Tachanoun un jour où tu dis le Hallel ? C'est mélanger du miel avec du vinaigre. Donc ça tient pas la route. Quel Tachanoun on peut dire le jour du Hallel ? Puisque le Hallel se récite juste après le Shmoneh Esrei. Comment est-ce qu'on peut dire à ce moment-là le Tachanoun ? Au même moment, ça ne tient pas la route. Oui, tu as entendu dire des choses qui ne tiennent pas la route. Tout simplement. Voilà, je parle ici de halakha, je ne parle pas de choses en l'air. Agalel al-Bracha, juste après le Shmoneh Esrei, pas après Alenu l'Echaber, comme si c'était une récitation de Tehilim. Vous ne moquez pas du monde. Top, c'est tout pour aujourd'hui, Shalom.